goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, bienvenue à tous à Bamako, Conakry, au Cap ou bien à Lhasa. Bienvenue dans le goût du monde, le goût des mondes. Ils se fondent, se confondent dans les gestes des anciens répétés aujourd'hui, presque à notre insu parfois, de la nature qui nous entoure et dont on se nourrit, de l'eau, du feu, de l'air qui sèche, cuise, abreuve, transforme dans notre relation aux autres et à la nature. Il s'avère que l'alimentation est un médiateur hors pair. Universel, à la fois concret et spirituel. Bonjour Luna Kyung.
Bonjour Clémence.
Vous êtes coréenne, une des spécialistes en France de la fermentation, de cette cuisine invisible et auteur de plusieurs livres, dont La cuisine coréenne illustrée, une plongée dans la culture culinaire coréenne aussi claire que riche. Cela fait longtemps que nous parlons ensemble de cette émission autour de spiritualité et de cuisine. Donc je suis ravie de vous avoir à notre table, tout comme Judith Baumann. Bonjour Judith.
Bonjour Clémence.
Alors,
bonjour
Luna. Vous êtes avec nous au téléphone depuis le Jura vaudois. Alors pour qu'on se situe un petit peu, c'est en Suisse, un petit peu au nord de Lausanne, si j'ai bien regardé sur la carte. Et vous vous trouvez dans le temple taoïste Mingshan. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous rejoindre. Vous vous connaissez sans vous connaître toutes les deux. Et c'est ce qui va faire aussi que cette conversation sera intéressante, puisque c'est Luna qui a pensé à vous, Judith. Donc nous allons essayer de tricoter un petit peu ces goûts du monde. Alors, je reviens juste sur mon introduction, qui dit quelque chose d'assez concret et simple, en fait. C'est que notre point commun à tous ici, où que l'on soit d'ailleurs dans le monde, c'est la nourriture. Elle est universelle. Et c'est bien plus que cela en réalité. C'est aussi notre lien le plus concret et direct avec la nature et avec le vivant et leur dimension éventuellement spirituelle. J'aimerais savoir, pour l'une et pour l'autre, en termes d'expérience et de ressenti, quand on parle justement de spiritualité, peut-être de la nature, des plantes qui nous entourent, comment est-ce que vous ressentez ça physiquement? Comment est-ce qu'on pourrait traduire concrètement ce ressenti? Luna, peut-être?
La spiritualité, ça pourrait être exprimé par des mots différents selon la culture. Pour moi, qui vient de l'Asie, cette communication avec la nature, c'est quelque chose, elle est dans la nature. Donc c'est de l'attention, la sensibilité, enfin d'être sensible aux matières. Et surtout dans la cuisine, il y a beaucoup de transformations. C'est une expérience assez solitaire en tant que cuisinière. Déjà avant d'inviter les mangeurs, en tant que cuisinier, on assiste à une transformation des matières. On intervient et ça change. Et être attentif à ça et que de se sentir finalement, on est entouré des choses vivantes, les êtres vivants. Non seulement les êtres humains, mais c'est aussi les choses, les plantes et les chairs d'animaux, même s'ils ne sont plus vivants, je veux dire, le sens vraiment large. Être sensible à ça, avoir un sentiment, avoir une force d'imagination, je dirais ça à une spiritualité.
Est-ce que c'est un sentiment, en tout cas, Luna Kyung, qui vous entoure de manière un peu permanente,
oui,
auquel vous ne pensez ou vous ne pensez pas spécialement?
Non, c'est quelque chose qui vient un peu spontanément. C'est que c'est justement, je n'entraîne pas comme on pourrait faire, par exemple, une méditation régulièrement. C'est, la cuisine, c'est un peu autre chose. C'est une tâche quotidienne. Et là, automatiquement, spontanément, vous entrez, vous concentrez à cuisiner, vous coupez des choses, vous passez à la cuisson. C'est là où on peut se sentir ce genre de sentiment.
Judith Baumann, est-ce que vous avez aussi une expression concrète ou une expérience peut-être que vous pourriez nous raconter qui soit dans la traduction justement de ce sentiment du vivant qui nous entoure?
Ce n'est pas forcément une expérience, mais c'est au niveau du ressenti. Ça veut dire c'est qu'à un certain moment, cette activité, elle vous habite. Et vous devenez tout d'un coup un espèce de canal, vous êtes relié, vous avez les pieds par terre, mais vous êtes quand même relié au ciel. Et puis ce que vous faites finalement devient une forme de méditation. Je crois beaucoup à la notion de conscience et puis je ne sais pas exactement ce que ça veut dire le sacré, mais pour moi le sacré s'engage à partir du moment où vous êtes touché par le cœur. Et quand votre cœur est touché, la manière comment vous touchez, la manière comment vous regardez, rend la chose habitée. Luna, elle a tout dit. quand on a la chance d'avoir une activité qui vous touche au cœur, c'est qu'à un moment donné, vous devenez présent et puis c'est ce qui rend votre action spirituelle. C'est simplement être conscient et se laisser faire aussi un peu.
Vous avez été en tout cas, Judith Baumann, chef d'un restaurant. Quels étaient les commentaires qu'on faisait après avoir goûté votre cuisine ?
Que ma cuisine était facile à digérer. Et c'était quand même une cuisine, je dirais, un peu compliquée. C'était une cuisine à un niveau gastronomique, il y avait beaucoup de plantes sauvages. C'était d'ailleurs une des spécialités. Mais quand quelqu'un vous dit « j'ai un menu gastronomique, je me sens léger à la fin », c'est que j'ai comme l'impression que vous avez réussi à enlever tout ce qui est lourd de la matière et l'alchimiser avec une sorte de présence. Là, vous voyez, c'est pas tangible, vous ne pouvez pas le toucher, mais peut-être pouvez-vous le sentir.
Le goûter.
Et vous donnez une recette à 3 personnes différentes, la même, vous aurez 3 résultats différents. Donc, c'est quoi cette différence ? C'est pas que de la technique. C'est l'âme de la personne qui est en train d'habiter son travail. C'est quelque chose de vibratoire, je crois. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'alchimiser. La cuisine, c'est une alchimie pure. Et puis, c'est un acte incroyablement intime. Vous vous rendez compte, vous cuisinez, et vous avez regardé, touché, transformé, puis une personne mange cela. C'est incroyablement intime. Donc, il faut être très clair dans ce qu'on fait, très propre, très aligné.
Luna.
La digestion, c'est important. Déjà, biologiquement, c'est important. C'est par là qu'on maintient notre vie. Mais c'est aussi, quand elle dit « je comprends bien digérer », ça veut dire qu'elle a fait une sorte de mariage de bonne rencontre avec la personne, avec l'aliment. Parce que il y a moi et il y a l'extérieur. Et comment faire rencontrer moi et l'extérieur ? Et entre ça, il y a cette intervention de cuisine, il y a cette intervention de transformation. Donc, en tant que cuisinier, elle a transformé pour que ces deux mondes se fusionnent, s'ouvrent et devenir amis. Et de finalement, ils vivent mutuellement, en fait. Parce qu'un aliment digéré par nous et évacué par nous, ça continue à vivre. On est dans ce cercle. Et bien digéré, ça veut dire se rencontre, ça s'est passé bien. Et la cuisine a été faite avec succès, comme on dit, pour qu'on se digère, on se rencontre, pour que la vie continue. Donc la digestion est effectivement très importante.
Ouais. Que cela se passe avec plaisir, en tout cas. La nature qui nourrit, mais la nature qui soigne aussi, et la nature qui caresse. Le chef coréen, Kim Ji-ho, donc un film a été fait sur sa cuisine. Je vous propose juste d'écouter les tout premiers moments de ce film. Donc c'est un film documentaire sur ce chef coréen, très 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 proche de la nature. Et on le voit donc dans la neige, en train de parcourir le monde également, à l'affût de ce qui font les ingrédients qui composent sa cuisine.
40년간 세상 천지를 떠돌았어요. 이렇게 다 보인다고 이게 생명을 살리는 것이 이 세상에 쓰지 못할 거 아무것도 없어요.
Alors, je ne pourrais pas traduire, contrairement à vous, Luna, mais en gros, il voit une fleur qui est cachée sous la neige. Il la découvre et il sait que partout dans la nature, on va trouver de quoi se soigner, de quoi se nourrir. Mmh. Il y aura toujours, en fait, le salut de l'homme dans la nature. Ouais. Est-ce que c'est aussi une position qui vous interpelle ?
Oui, il dit que tout ce qui existe dans le monde sert à quelque chose. Il a sa raison d'être. Et de là, il refuse de diviser. Il y a un côté bien, il y a un côté mal. Tout dépend de comment être utilisé, comment aborder. Et c'est justement ce... Moi, j'insiste toujours sur le mot « l'amitié ». C'est-à-dire, il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas au-dessous. C'est qu'en tant qu'ami, même les aliments, en tant qu'ami, on a ce sentiment d'être amical, on a ce sentiment d'être côte à côte. Pas moi, en tant qu'objet, tu ne serais pas une conquérante d'obtenir mes viandes ou mes légumes. Mais j'y approche en tant qu'ami. C'est vrai qu'il y a cet acte de tuer un animal pour le manger. Bon, ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en tout cas, à la base, il faut avoir ce sentiment d'être humble et modestie vis-à-vis de ces animaux et des légumes qu'on prend. Donc, quand il dit toute sa raison d'être et qu'ils sont là pour guérir, c'est justement ils sont là de manière amicale pour nous faire quelque chose et nous, on doit être aussi leurs amis.
C'est une approche qui est justement très globale, oui, en fait. C'est qu'on vit dans un monde dans lequel tout a une utilité, comme dit le chef, comme oui. vous dites également, et tout doit être respecté dans son utilité globale, jusqu'au bout. Donc un légume qui va être cueilli, un animal qu'on va tuer pour qu'il soit mangé, oui. doit être respecté de A à Z,
c'est ça,
intégralement. En fait.
Ouais. C'est universel pour la chose elle-même, et on est aussi un élément de cette universalité. Et nous-mêmes, on fait partie de cette tissu incroyablement latéral, je dirais, et que tout est utile, tout est là pour l'un comme l'autre. En fait, quand on pense à cette hedge relationnelle, ce n'est ni plus ni moins qu'une conscience écologique, en fait.
Ouais. Judith Baumann, je pense que vous êtes d'accord avec Luna.
Oui, parfaitement. Ce que je peux vous dire, peut-être quelque chose qui sort un petit peu du cadre, bien sûr, dans mon restaurant, je cuisinais de la viande. Et de cette viande, je récoltais les os. Je suis fascinée par l'objet os. Et il m'arrivait beaucoup de vraiment très bien les nettoyer, faire comme des petits sanctuaires, ça veut dire des objets d'art. Donc, ce qui fait que c'était ma manière à moi de remercier l'animal d'avoir été sacrifié. Et je ne sais pas, c'est quelque chose, encore maintenant, quand je vois un os comme ça, je suis immédiatement touchée par sa matière, parce que ça représente, c'est notre squelette, c'est ce qui nous tient debout. Alors, ma manière, disons, parce que je ne vais pas répéter ce que Luna dit, mais moi, j'avais une habitude d'utiliser des os pour faire des objets d'art. Voilà. C'est ça, j'ai de dire. Des petits sanctuaires pour remercier, puis je pouvais mettre une bougie ou quelque chose pour le remerciement de ces vies sacrifiées.
Luna,
c'est parfois les nourritures et la nature morte servent à justement nous rappeler sans cesse la vanité. C'est là. Donc c'est par là aussi, on dit bien de temps en temps, parce qu'on vit trop souvent, on oublie que nous allons mourir. Et avec ça aussi, on se reprend la conscience que nous allons mourir un jour. Et ça nous retient un petit peu modeste.
Voilà. Ça nous remet un petit peu à notre place, à notre bonne place. Il y a un aspect donc, que vous avez déjà abordé, et l'une et l'autre, c'est la notion dans la cuisine, qui est la transformation des aliments. La notion du toucher, des sens en éveil, que soit le toucher, que soit l'ouïe, l'odorat. Mmh. Est-ce que c'est important ? En quoi est-ce que justement cette relation que l'on a avec la nature, ces sens éveillés sont importants ? Y compris la vue, j'ai oublié la vue.
Ah oui, oui, bien sûr, c'est que ce qui est bien dans la cuisine, à la fois la cuisine, ça nous nourrit notre corps et ça nous nourrit notre esprit. C'est très équilibré comme approche. On a à la fois corps et l'esprit. Donc, tous les sens de voir, sentir par toucher ou par l'odeur et tout ça, c'est quelque chose à la fois très sensuel. On reste sur terre. En même temps, ça fait travailler l'esprit, ça fait travailler l'imagination et ça nous inspire de manière poétique. Et la cuisine est vraiment foyer de l'expérience dans tous les sens. En plus, c'est avant de partager avec des amis. Si on est là, on a une expérience personnelle plutôt solitaire. Donc tout cela fait qu'on oserait de dire par là, on pourrait quelque chose de proche de la spiritualité parce qu'on est à la fois corps et l'esprit. Et moi tout seul, j'ai cette expérience intégrale. Et là, on le sent souvent dans les transformations, en utilisant le feu, en mouillant, en plongeant dans l'eau ou en fermentant aussi. Ces transformations, même si on sait aujourd'hui scientifiquement, moléculairement, comment ça transforme, quand on assiste réellement dans ce champ-là, on est toujours émerveillé, on est toujours content aussi qu'on arrive à une cuisson parfaite, une fermentation comme on voudrait. On a ce sentiment de satisfaction, remerciement finalement à la nature et aussi d'avoir ces produits frais en bonne saison, à bon terme. Et qu'avec petite intervention que j'ai faite, que j'ai réussi, c'est une satisfaction, bonheur et expérience qui est pleine. Quelque chose comme ça.
Ouais. Judith, juste avant qu'en fait on commence cette émission, nous avons échangé quelques mots où je vous ai demandé traditionnellement qu'est-ce que vous aviez mangé ce matin, parce que vous ne le savez pas, mais très souvent je pose cette question à nos invités et vous m'avez parlé de cette bouillie de riz qui peut être considérée un peu comme une page blanche. Et vous avez noté qu'il fallait mettre à cette bouillie de riz peut-être un peu de couleur, un petit peu d'acidité, un petit peu de saveur nouvelle. Est-ce que ça participe aussi de justement toute cette approche de la cuisine avec les cinq sens en éveil, y compris la vue?
Ah oui, absolument. Je vous ai dit, la vue, elle nous fait saliver, donc ouvre l'appétit, amène les sucs pour la digestion. Oui, oui, c'est absolument. Pour moi, c'est très, très important. Je suis une visuelle, donc oui, j'aime beaucoup. Et puis d'ailleurs, ce que disait Luna par rapport au sens, par rapport à... Je trouve que dans la cuisine, nous avons une chance, c'est qu'on peut vivre une partie de notre instinctualité. Parce qu'on reçoit beaucoup d'informations du corps, le toucher, les consistances, la vue, la texture. On est très en lien avec ce que le corps nous raconte. Et puis en même temps, ça, en tout cas pour ma part, ça favorise la fantaisie. Et je me trouve, comme Luna disait, quand quelque chose réussit, écoutez, je suis comme une petite enfant, je trépigne, je suis heureuse.
Une épiphanie.
C'est comme ça. Je suis contente. Et je trouve quand on a une activité ou bien on peut faire un travail qui est aussi gratifiant pour votre être, c'est magnifique. Et puis voilà, vous, en même temps, vos amis sont contents que vous leur faites à manger. Mais on est aussi un tout petit peu égoïste. C'est fait, comme elle dit, on passe beaucoup de temps seul en cuisine. C'est très solitaire, c'est très intérieur. Moi, j'ai rencontré John Guang, je ne sais pas si je dis juste, et elle m'a absolument rassurée parce que pour elle, la cuisine, c'était la méditation qu'elle faisait. Et moi, j'ai toujours cru que je perdais peut-être mon temps à faire des choses plus sérieuses, entre guillemets, être plus longtemps assise sur un coussin de méditation, etc. Non, vous êtes bien là où est votre cœur. C'est le but, tout le monde veut être heureux.
On va parler de cette moine à nouveau, bien sûr.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Esve i bono, já no espera teu, num jardim florido, beira da correr. Val di paur e prova de fertilidade. On nous veut féconde, ta dirama, c'est amour. Agua ta caï, esperanza ta brota. Naquele tempo d'outrora, quando mundo era mundo, mansã de ouro. Tava da chuva zanga e que era de bonança, os transformar numa história sabe do vir, mas nós vontade de esperança é maior. Aquele jardim na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda tá cultivar. Cabo Verde verde na nos coração, nos terra a vertejar, de nos mãos cheio de amor.
Jardim Prometido sur RFI, Césaria Evora, bienvenue. Si vous nous rejoignez, bien sûr, vous êtes dans le goût du monde, les yeux grands ouverts et les sens en éveil. Nous parlons de la cuisine comme lien entre les mondes, lien de l'homme à la nature, lien de l'homme au sauvage, et lien également, mais ça on n'en a pas encore tout à fait parlé, lien entre les vivants et leurs ancêtres. Autant de rencontres qui relèvent souvent du ressenti et pas toujours facile de mettre des mots dessus. Cependant, nos deux invités, Luna Kyung, auteure coréenne, et Judith Baumann, qui est également cuisinière dans le temple. Comment prononce-t-on le nom de ce temple d'ailleurs, Judith ?
C'est un centre.
C'est un centre, oui.
Traduit, c'est montagne éclairée.
Le centre de la montagne éclairée. C'est beau, ça.
Oui, c'est beau. Et puis, nous avons une vue magnifique. Nous sommes adossés donc, à la montagne, dans un beau siège, et nous voyons vers le sud la chaîne de toutes les montagnes des Alpes. C'est juste magnifique. Un peu venteux, mais on ne peut pas tout avoir. Mais c'est un très, très beau lieu, oui.
En tout cas, dans plein d'espaces, manger, évidemment, c'est important. C'est ce qui nous relie les uns aux autres, quelque chose de très concret. Et puis, si l'on prépare à manger et si l'on cuisine aussi, c'est pour que cette nourriture soit partagée. Et finalement, dans ce tout dans lequel on est, dont vous parliez tout à l'heure, Luna Kyung, ça se retrouve dans bien des cultures. Je vous propose d'écouter Sayouba Traoré qui, sur RFI, présente l'émission qui s'appelle « Le coq chante ».
En Afrique, d'abord, on mange ensemble. Ensemble, ça ne veut pas dire monsieur, madame et les enfants, parce que pour nous, ça, ce n'est pas une famille. C'est tout sauf une famille. En fait, c'est tout le clan autour du patriarche. Et quand on dit ensemble, c'est le visible et l'invisible. C'est-à-dire que vous avez les hommes présents, les ancêtres, les esprits, et l'être suprême, on l'appellera Dieu, on l'appellera comme on veut. Et c'est pour ça qu'on commence toujours par les libations. C'est-à-dire, avant de goûter n'importe quel breuvage ou n'importe quel plat, on en donne un peu aux ancêtres, qui évidemment sont dans la terre. Parce que cette nourriture nous vient de la terre et c'est normal qu'elle y retourne. Donc, le patriarche du clan verse une goutte ou donne une poignée de riz ou une poignée de maïs ou en tout cas quelque chose. Avant même qu'on ouvre les hostilités. Et pourquoi on mange en silence? Parce que c'est une façon de rentrer au-dedans de soi-même et de respecter la nourriture. Ce n'est pas parce qu'on mange qu'on doit oublier de penser. Et penser, c'est-à-dire pourquoi cette façon de rentrer au-dedans de soi-même, c'est pour rappeler à l'individu que, bon, on peut avoir toutes les prétentions qu'on veut, hein, mais qu'on n'est qu'une infime partie d'un vaste tout. Voilà, c'est ce rappel-là. Et la preuve, c'est qu'on a besoin de manger comme les insectes, comme les vers de terre, comme les éléphants, comme tout le monde. Et qu'on n'est qu'une toute petite partie d'une grande vérité qui nous échappe.
Une grande vérité qui nous échappe. Un grand tout, Luna Kyung.
Oui, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la modestie du mangeur. Parce que quand on est mangeur, on prend quelque chose. Et souvent, facilement, on peut prendre un statut d'un preneur et le conquérant. C'est justement plus qu'on mange, plus qu'on prend la chair de l'autre. Il faut justement plus rester modestie, plus partager, plus penser à ce que tu manges. Et c'est comme ça qu'on peut, comme on dit, on reste amical avec les autres et qu'il n'y a pas de pouvoir qui gagne sur-dessus des autres.
Ce que je trouve extraordinaire, Judith Baumann, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, ni Luna, on parle de l'Afrique. Et ce discours, on l'entend dans vos bouches aussi, qui venaient d'Asie. On a des océans qui vous séparent et pourtant, on a la même, au fond,
quand on partage la, parce qu'on partage la même nature. Parce que c'est la nature universelle, c'est totalement normal qu'on parle de la même chose. Justement, ce n'est pas une culture locale, la nature c'est universelle. C'est que le monde est universel et c'est le fait de manger et le fait de rester modeste face à la nature, face aux animaux qu'on prend, des végétaux qu'on le prend, c'est universel, donc totalement naturel qu'on parle de la même chose.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression cependant qu'en Occident, on ne saisit pas tout à fait cette valeur de nature, ou alors on la découvre, on l'analyse, mais on ne la ressent pas vraiment. Judith, vous qui êtes en Suisse, est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans cette analyse?
Le fait de manger dans le silence, c'est qu'on se consacre à une chose, on mange. Et chez nous, alors, manger devient accessoire. On regarde peut-être la télé, on parle aux enfants, on regarde encore ses messages WhatsApp, on se demande si la machine à laver est terminée, et puis accessoirement, on mange. Donc, que voulez-vous? Ce qu'il y a, c'est que c'est une question de priorité. À un moment donné, nous sommes un petit peu perdus, je trouve. Donc, on ne sait plus très bien ce qui nous nourrit véritablement. Mais fondamentalement, c'est clair, il faut commencer par des actes simples et après peut-être la relation à la nature, à soi, va devenir aussi plus simple. La nourriture peut nous inviter à ça parce que c'est notre constituant, c'est ce qui nous permet de vivre à côté de l'air. Je trouve que ce qui se passe maintenant désigne à une espèce de délitement. Les gens sont un peu perdus, ça va dans tous les sens et puis ça perd un peu le centre. Et donc, ça va se retrouver aussi dans cette manière de se nourrir. On a perdu pied un peu.
Luna.
Je pense qu'en Occident aussi, de toute façon, la nature, les Occidentaux aussi, ça, on partage, donc ça ne peut pas être différent. Sauf que la révolution industrielle qui est arrivée, la réussite de triomphe de la science, ce qui fait probablement que l'homme s'est situé beaucoup plus au-dessus de la nature, je pense qu'en Occident, il y a ça qui a probablement un peu aborlé par la succès fulgurant des hommes. Mais sinon, avant cette industrialisation, avant ce triomphe de matérialisme, je pense qu'en Occident aussi, on avait cette conscience de la nature et on recueillait devant la nature. Je pense que c'est juste en ce moment, c'est le triomphe de matérialisme qui aurait un petit peu embrouillé cette conscience.
Et il y a un intérêt de toute façon qui revient justement vers la nature, vers le durable, le respect de la terre, beaucoup en Occident et également dans d'autres pays du monde. On parlait de cuisine évidemment, parce que le goût du monde c'est une question de marmite, c'est ce qu'on met dans la marmite et pourquoi. Et on parlait de cuisson, le feu, le bois, l'eau, le soleil, la façon dont justement on va se servir de... et même du temps, j'ai envie de dire. Le temps qui nous impose une cuisson et de respecter un rythme. Est-ce que la cuisine, c'est un bon guide pour tout ça? Et comment?
Oh oui, la cuisine, c'est vraiment l'art de la transformation. J'ai été très inspirée, j'ai beaucoup aimé à ma jeunesse de lire les œuvres de Gaston Bachelard, qui
c'est
a
écrit... un philosophe.
Voilà, un philosophe. Avant d'être philosophe, son vrai métier était scientifique. Donc, un scientifique qui rêve, ça me plaît beaucoup. C'est parce que, justement, avant tout, le métier d'un scientifique, c'est observer et sentir, décrire. Et de là, inévitablement, quand on a un peu d'imagination, on peut écrire des œuvres aussi poétiques et inspirées que ces livres. C'est vrai qu'une fois qu'on est attentif à ça, on ne peut pas être indifférent. Et d'ailleurs, on parle de matière vivante. Et le temps, la particularité de la matière vivante, c'est transformation sans cesse. Et même une mort. En fait, une mort, c'est pour le côté pratique pour dire il n'est plus, il ne bouge plus. Mais même un cadavre continue à se transformer. Ça pourrit, ça décompose et ça devient la nourriture des micro-organismes et tout ça. Donc la transformation, c'est le caractère de matière vivante. Et si on parle d'aujourd'hui de la spiritualité, et la cuisine, c'est justement la matière vivante. Il s'agit de matière vivante. Donc la transformation, qu'il soit par le temps, ce soit par l'intervention de quatre éléments, comme vous dites, le feu, l'eau ou le temps, c'est crucial pour nous provoquer justement notre sensibilité.
Judith Baumann, vous m'avez parlé en préparant cette émission d'une expérience au Maroc. Est-ce que vous pourriez nous la raconter?
Oh, c'est simplement, je suis tombée amoureuse d'une histoire à Marrakech, pas d'une personne, mais d'une histoire d'un restaurant. J'ai découvert donc la cuisine marocaine. J'ai appris à faire des pastillas, des feuilles de briques, donc c'était assez épique. Et puis en même temps, j'allais au hammam et à la fin de la journée, je voyais arriver des femmes avec leurs tagines qui mettaient leurs tagines dans le hammam durant la nuit. Et le lendemain matin, elles allaient leur chercher et puis elles le servaient à table à midi. Et donc, j'ai trouvé dans cette pratique quelque chose de tellement organique. Et comme Luna dit, là, ici, par exemple, la notion du temps. Et puis, ce feu qui s'éteint gentiment, cette cuisson douce qui est caressante et qui est tendre, ça donne à cette nourriture une autre valeur que peut-être un gaz, je n'en sais rien. Je me laisse assez enchantée. Je suis capable de me raconter des histoires. Et donc, du coup, quand je goûte après... L'histoire que je me suis racontée, elle prend forme, elle prend goût, elle prend consistance. Ouais. Donc moi, le temps, j'estime que c'est un ingrédient très, très important. Comme Luna dit aussi, dans la fermentation, dans la transformation. Et là, nous allons osmoser ou bien nous allons transformer des goûts. C'est que grâce au temps, c'est pas la rapidité.
Vous alliez dire, Luna, l'enchantement.
Non, l'enchantement, c'est justement, c'est très important dans tout ça. Et comme on dit, sensible à l'enchantement, c'est aussi garder son côté d'enfant, l'âme pure. Je pense que cette ouverture est effectivement importante. Et quand on parle de la spiritualité, sans aller vraiment employer grands mots, reste émerveillé, enchantement, garder ça en esprit, je crois que c'est déjà une expérience spirituelle.
Complètement. Ouais. Parce que nous allons parler bien sûr de fermentation, dont vous dites, Luna Kyung, dans votre livre « Les Invisibles, 10 façons de les préparer », que c'est un peu la cuisine qui est un moyen de convoquer et de communiquer avec les invisibles. Et est-ce que là, on est là dans une forme spirituelle également?
C'est que quand je cuisine, tu fables aussi. Non, mais c'est vraiment bien parce qu'on a une expérience tactile en cuisinant. Et pendant ce temps-là, le cerveau, ça travaille, ça invente des histoires, comme Judith disait tout à l'heure. Et oui, Les Invisibles, j'ai donné ce titre à mon petit livre Les Invisibles, 10 façons de les préparer chez l'édition Les Pures. Parce que physiquement, les micro-organismes sont invisibles à l'œil nu, bien sûr, ouais, mais c'est un titre poétique. Et en plus, l'invisible, j'emploie le mot convoqué parce qu'ils sont partout dans l'air, mais invisibles, transparents, ils sont partout. Et quand on procède des fermentations à un moment donné, c'est visible par leur transformation des aliments, ou bien par réelle apparition, comme la croûte de champignons sur un fromage. Ouais. C'est pour ça que j'ai employé le mot convoqué. Et Les Invisibles, c'est, pour revenir au mot encore très poétique, le vide est plein. Ça va plaire à Judith, parce que c'est très taoïste comme phrase. C'est que l'air est transparent, il est rempli des micro-organismes, parfois pathogènes, parfois bénéfiques pour nous, mais c'est notre art de manipuler, c'est notre, justement, être sensible à l'écoute des matières vivantes, on les convoque, on les repousse.
Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous dites, on ne les voit pas, mais il suffit de goûter, notre palais le reconnaîtra. On est d'accord.
Oui. Parfois, nos parties sensorielles sont beaucoup plus intelligentes que notre cerveau lui-même.
Et là, on revient sur ce que disait Judith tout à l'heure à propos du corps.
C'est ça. Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. It's Kelpie Vibes. Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. Mother Nature.
Of us is one of us. Mother Nature, Angélique Kidjo sur RFI, vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez Le Goût du Monde autour de notre marmite Luna Kyung, auteure coréenne et spécialiste de la fermentation, et Judith Baumann, cuisinière de saveurs sauvages, membre du centre taoïste Ningxian, dans le Jura suisse, donc à côté de la France. Arrêtons-nous pour écouter ce que Mère Nature a à nous dire, chante Angélique Kidjo. Moi, je trouve que c'est un beau message, ça. Qu'en pensez-vous l'une et l'autre?
Oui. La mère, pourquoi pas le père aussi, c'est, en tout cas on est engendré par la nature et la nature a besoin de nous pour qu'elle continue d'exister. Oui. Et c'est justement dans cette relation circulaire et tu vois l'écologie, tu vois cette expérience du corps et la cuisine, manger, mangeant, et quelque part, expérience spirituelle. Ouais.
On parlait juste avant, Angélique Kidjo, de la fermentation. La fermentation, ça a un peu façonné le palais des Coréens. C'est une trame, ce goût de fermentation. Et dans plusieurs pays du monde, d'ailleurs, quand on pense à certains pays africains, on a aussi le goût de la fermentation, le goût du poisson séché qui va se mêler dans les saveurs, le goût de la graine de néré, du sumbala, qui est une épice que je vous ai apportée, Luna. C'est une trame aussi, ça participe de nos vies, cette fermentation. Est-ce qu'elle a joué un rôle important, Judith, dans le fait que les gens qui étaient à votre table se sentaient légers en la quittant?
Non, disons, l'époque, vous savez, j'ai tenu ce restaurant 21 ans, j'ai arrêté en 2009. Donc, pour nous, ici, en Europe, en Occident, la fermentation est venue un petit peu comme une grande vague. Bien sûr, nous connaissons la choucroute, nous connaissons des fermentations plutôt paysannes, que je mangeais chez les paysans, mais moi, je n'étais pas une spécialiste de la fermentation du tout. Non, moi, ma spécialité, c'était plutôt... la nature, les plantes sauvages, des goûts un peu nouveaux dans ce qui était le extrêmement proche, ça veut dire c'était devant la porte presque, puisque je travaillais dans un lieu assez éloigné, et la vallée s'appelait la Val Sainte, donc j'ai eu toutes les bénédictions, mais pas la fermentation.
Ouais, une nature que l'on trouvait sur le pas de la porte, une nature très locale. Est-ce que du coup on va retrouver cette notion qu'on a dans la cuisine des temples, Luna Kyung?
Oui. Déjà, la cueillette sauvage, en réalité, la fermentation est très, très présente. Quand j'entends les moines qui cuisinent, les plantes sont des êtres vivants en se défendant des prédateurs, d'où la raison d'avoir des toxines ou toutes sortes d'agressivité vis-à-vis des prédateurs. Et la fermentation est justement utile pour neutraliser tout ce qui est la nature défensive des êtres vivants, la volonté de vivre. Et voilà. Donc, quand j'entends les moines, c'est que plus les plantes sont inconnues ou sauvages, la fermentation est importante. C'est comme ça qu'on enlève le côté vif du vivant pour qu'il soit plus assimilable pour notre corps.
Oui, c'est ça. Il faut une cuisine pour nous permettre de les adopter.
C'est ça. Dompter, adoucir, calmer, maîtriser et devenir amis.
Ouais. Et alors, cette sauce soja et cette pâte de soja, comment est-ce qu'elle s'imprègne justement dans... parce que je crois que c'est hérité des ancêtres quand on est en Corée. C'est vraiment une transmission qui s'est faite.
Ouais. Ça commence déjà que l'effet de soja, c'est très, très indigeste, tel qu'elle est. Vous pouvez passer au cuisson, vous digérez quand même mieux que cru, mais si vous les fermentez, là, vous digérez encore mieux, vous tirez le maximum de bénéfices. Donc, il y a cette histoire de fermentation avec l'effet de soja qui était nécessaire. Sinon, la fermentation en Corée, c'est vrai que c'est vraiment le pilier de la cuisine coréenne parce qu'on cherche le goût umamique aussi, on cherche, mais c'est aussi dans cette façon de faire. On prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'assistance, rester respectueux ou attentif. Et ce qui fait, ça montre que quelqu'un qui fait bien la fermentation voudrait dire aussi que c'est quelqu'un qui se lève tôt et qui est attentif, qui écoute les produits. Ça veut dire aussi que c'est quelqu'un de bien à la fin.
C'est plein de bonnes qualités en fait. Humaine.
Oui, c'est ça, c'est une bonne fermentation. C'est vrai que ça nécessite une qualité humaine parce que c'est un peu normal. Il faut être vraiment présent. Il faut être aussi calme pour pour justement observer ce vraiment changement infinitésimal est très très petit. Il faut le capter. Pour ça, il faut être silencieux, il faut être présent, il faut écouter, ce qui fait forcément une qualité humaine, forcément.
Mmh. Ouais. Plusieurs types de fermentation d'ailleurs. Je vous propose d'écouter Maori Murota, elle est japonaise. Elle nous a parlé d'une fermentation qui s'appelle le Nuka Doko, qui je pense va trouver écho chez l'une et chez l'autre.
Nuka Doko, c'est le lit du Nuka. Nuka, c'est le son du riz. Sel et de l'eau, c'est tout. Par contre, après, c'est votre main et les bactéries qui sont sur votre main et les bactéries qui se flottent dans l'air, et aussi des légumes qui ont des bactéries qui se développent à l'intérieur de ce mélange de son de riz et de l'eau et du sel. Et ça crée le goût de fermentation très compliqué. En fait, c'est comme un petit univers à l'intérieur. Mais si j'ai par exemple, vous et moi, on fait le Nuka Doko séparément. C'est-à-dire, moi, je fais mon Nuka Doko et personne ne touche. Et vous, vous faites votre Nuka Doko.
Et personne ne touche.
Et utilise exactement la même quantité des ingrédients, le goût sera différent. C'est très précieux, c'est le goût de famille. Donc, avant, quand les femmes se marient, souvent, c'est les femmes qui sortent de la famille. Et la maman de la femme donne une partie de Nuka Doko. Et après, elle continue avec ce Nuka Doko en ajoutant les nouveaux Nuka Doko par elle, de créer le goût de la famille.
Créer le goût de la famille.
Goût de la main.
Qui aussi. Voyage. Le goût de la main, absolument, Luna Kyung. C'est quoi le goût de la main?
Le goût de la main, c'est quelque chose, quand on me demande de présenter la cuisine coréenne, je parle de ce concept. Parce que parler de Sejong ou la richesse de produits et tout ça, c'est dans tous les pays, il y a ça. Donc, je ne parle pas vraiment ce genre de choses. Et toutes les cuisines sont bonnes. Donc, je ne parle pas vraiment que la cuisine coréenne est bonne. Mais par contre, l'importance du goût de la main, c'est-à-dire l'importance de la personne qui cuisine et qui apporte son toucher aux convives, qu'on appelle goût de la main, c'est-à-dire les nourritures manipulées par la main de cuisinière. Et cette intervention humaine, ce lien humain que je trouve vraiment très riche en cuisine coréenne, dans le contexte en tout cas. Et voilà, c'est le goût de la main, sonmat en coréen. C'est à la fois comment elle s'appelait, la
Maori japonaise.
Elle parlait, c'est réellement, peut-être qu'il y a des bactéries qui partent de la main, mais c'est surtout aussi cette intention, cette volonté de vouloir nourrir, vouloir partager. Et c'est là où le goût de la main est bien. Voilà, mais c'est pour ça que j'en parle à tout le monde, pour la cuisine coréenne.
Comme si on entretenait, en fait, Judith Baumann, peut-être que vous serez d'accord avec moi, une sorte de conversation silencieuse avec les aliments pendant qu'on cuisine à destination et en pensant à ceux qui vont partager le repas.
Oui, tout à fait. Et puis ici, vous avez vu, c'est que cette interaction avec, encore une fois, avec l'invisible, cet invisible crée donc un goût, crée quelque chose qui n'est pas identique si c'est vous qui le faites ou si c'est moi qui le fais. Je trouve ça, c'est assez magique. Et puis, c'est ce qui crée cette intimité. C'est une forme d'art, c'est une forme de discussion avec l'invisible qui se matérialise. Par exemple, chez moi, dans le restaurant que j'avais, j'étais toujours très, très sensible aux mains des cuisiniers. Quand j'engageais des cuisiniers, je regardais leurs mains. Et puis, la manière que les cuisiniers ou cuisinières avaient de toucher les aliments, j'arrivais assez vite à savoir où ils en étaient, si ça pouvait me convenir ou pas. Vous voyez, le toucher, ça dit tellement de choses sur la personne. Quand elle touche un aliment, c'est toute la bonté, toute la bienveillance est dans ce toucher. Et si vous sentez ça, elle va bien cuisiner. Elle cuisine avec la main sur le cœur peut-être, j'en sais rien. Mais c'est très important. C'est très important. C'est pour créer cette musique, pour créer cette vibration. Sinon, ça devient que de la matière, c'est lourd.
Et il y a un moment aussi dans la vie où cette main agit également pour témoigner de l'affection et du souvenir de ceux qui ne sont plus et des ancêtres, notamment dans la confection des offrandes. Dans le film dont je parlais tout à l'heure, The Wandering Chef, il y a un grand moment où le chef prend beaucoup de temps pour cuire. Il prépare une table très garnie d'offrandes et on a l'impression que c'est tout un discours, c'est toute une conversation silencieuse qu'il a avec la personne défunte. Est-ce que ça rentre aussi... En fait, ça fait partie d'une conversation avec ceux qui ne sont plus, mais qui nous entourent.
également.
Oui, oui. Là, dans ce film documentaire qui parle de ce chef, qui, en fait, c'est la quête de ce chef, histoire personnelle, c'est qu'il partait pour la mère qu'il a perdue très, très jeune. Et c'est comme ça qu'il rencontre d'autres personnes, une vieille femme qui aurait l'âge de sa mère. Et en fait, il cuisine pour cette femme, entre-temps, qui est décédée. Et c'est cuisiner, c'est de lui adresser un discours, mais un discours muet, mais un discours par la cuisine, par le découpe très, très longue, hachée ou préparée en abondance. C'est quelque chose parce qu'elle est déjà décédée. On ne peut pas vraiment adresser les paroles, mais la nourriture devient une sorte d'intermédiaire qui est un sentiment probablement pas complètement, on ne peut pas tout transmettre dans un discours, mais un aliment bien préparé et qui se donne mal à choisir et préparer, là, l'autre va comprendre qu'il soit un défunt ou qu'il soit un ami invité pour partager un repas. C'est, la nourriture est parlante pour ça.
Et elle est aussi parlante dans la mesure où parfois, on prend pour soi les gestes qui nous ont été transmis. Et du coup, on a une permanence comme ça dans l'idée des personnes qui ne sont plus et qui nous accompagnent au quotidien. Judith Baumann, dans l'esprit taoïste, est-ce que ça trouve un écho?
Ah oui, dans les offrandes aux ancêtres, aux divinités, c'est sûr. Ça veut dire on pose de la nourriture, des légumes, etc., des fruits. On les offre d'abord aux ancêtres et aux déités avant de les consommer, par exemple. Oui, oui, bien sûr, c'est clair. Et par exemple, j'étais en Chine dans un petit temple et le maître du temple, avant de commencer son bol, il regardait le bol un tout petit moment et puis avant de manger, il invitait les immortels, si on peut bien, de venir goûter d'abord. Et après, il se mettait à manger. Donc, disons, le lien, c'est clair, il est toujours là. Par exemple, moi, j'ai des souvenirs de ma grand-mère, des odeurs. Si je ressens cette odeur, ma grand-mère, elle est instantanément là. On est instantanément reliés. Mais de ma part, je ne connais pas vraiment des rituels aussi détaillés ou bien aussi importants comme Luna le décrit.
Luna, les Coréens ont raison de dire que les âmes se nourrissent des parfums et qu'on fait bien de croquer dans les fruits pour laisser ces parfums se dégager.
Parce que dans les offrandes, comme ça, il y a quand même des règles parce que c'est très cérémonial. Donc, il y a des règles. On met les fruits côté gauche ou côté droite et tout ça, tout ça. Il y a aussi une des règles qui est amusant, c'est on le met un fruit entier, on l'entame un petit peu, on épluche un petit peu pour que la chair sorte et que le parfum se dégage. Parce que non seulement les défunts ne parlent pas, donc on offre à manger, mais en même temps, ils ne mangent pas vraiment les nourritures, la chair de la nourriture. Mais par contre, l'odeur, oui, l'odeur invisible, c'est un aliment pour les invisibles, les âmes des défunts. Les Coréens ont des idées, imagination comme ça.
Moi, j'aime bien cette idée. Merci beaucoup à toutes les deux, Luna Kyung. Merci Judith Baumann. Les liens pour lire La cuisine coréenne illustrée, entre autres, évidemment, les 10 recettes pour cuisiner avec les invisibles et le temps aux éditions de l'Épure. Pour découvrir le centre Mingshan seront sur la page du Goût du Monde. Des liens pour lire, pour découvrir également encore. Et vous, racontez-nous quelle place trouve la nature dans votre cuisine. Ressentez-vous ce retour, cette envie de vous reconnecter peut-être à un moment pour soi, un moment de nature? Racontez-nous sur les réseaux sociaux, par message sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 ou en pensant à moi tout simplement. Peut-être que je percevrai vos pensées. Merci beaucoup à Cécile Benissi pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. Merci à vous tous de votre fidélité. Bonne semaine à tous. Mijoter rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.